les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se tuer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, parce que personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Et bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, tu les collègues à Montpellier, Canassu à Toulouse. Et puis Radio Primitive sur Reims, c'est Grégor, il est par anarchiste communiste. Allez, on va passer notre cinquième épisode de la Révolution espagnole de 36-39. Donc voilà.
Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes.
Cinquième épisode. Il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. Sur le plan militaire, après l'échec des milices à Majorque, les factieux gagnent du terrain. Ils approchent de Madrid. Le nouveau gouvernement républicain refuse toute aide à Malaga, où prédominent les anarchistes, la conduisant à une fin terrible. Les Asturies se défendent, mais prisonnières des tenailles qui se referment sur elles, leur combat semble sans espoir. Les syndicats seuls continuent à armer les miliciens, combattant à Tolède et à Guadalajara.
Avec l'instauration du communisme libertaire en Espagne, il est question de supprimer l'État, la propriété privée, l'argent et le mode capitaliste de production. Mais on veut aussi sortir à tout prix de l'étouffoir physique et moral que l'Église a institué depuis des siècles. La CNT fut pendant les années 30, davantage qu'un organe de défense, la pièce maîtresse d'un réel projet d'émancipation sociale. Autour d'elle gravite une galaxie libertaire impressionnante, faite d'associations multiples et variées, des Athénées. Elle s'occupe dans les quartiers-villages tant d'alphabétisation que de culture, de morale sexuelle ou de propagande végétarienne. Un des premiers actes du communisme libertaire est de fonder des bibliothèques pour enfants et adultes, et surtout des écoles autogérées par les enfants mêmes. Le bouleversement économique et politique devait donc, pour les anarchistes les plus conséquents, mettre à l'épreuve quantité d'idées et de projets relatifs au nécessaire changement de mœurs entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas la moindre des originalités du témoignage de notre Italo-espagnol que que d'évoquer comment ses espérances résonnaient en lui. Tous les observateurs ou participants des débuts de la Révolution espagnole l'ont constaté. Les femmes font leur apparition dans les villes, les campagnes, les colonnes, se mêlant de tout et notamment de politique, signe que des bouleversements profonds sont vraiment à l'œuvre. Sur le front comme à l'arrière, la présence d'hommes et de femmes étrangers, plus détachés de l'emprise machiste que leurs camarades espagnols, instillera tout particulièrement un climat de familiarité entre les sexes. On a vu en quelles circonstances Jiménez évoque son éducation française.
Les jours passaient, et la colonne ne quittait pas les rives de l'Èbre. La collectivité s'était organisée. Les paysans, Pina étant une commune exclusivement agricole, labouraient et semaient, préparaient la prochaine récolte. Beaucoup de miliciens se joignaient aux équipes, pour passer le temps et ne pas perdre la main. La journée de travail était de 8 heures. Le soir, les paysans se réunissaient au siège pour faire le compte-rendu des travaux effectués dans les champs, et établir le programme qui serait réalisé le lendemain. Pour rentrer chez moi, la maison de Tia Pasquale était devenue la mienne, je passais presque tous les soirs devant la salle de réunion. Une fois, mon attention fut attirée par des éclats de voix. Je m'arrêtai, essayant de comprendre la cause de cette discussion orageuse. Quelqu'un survint, et voyant qu'il allait entrer, je lui demandai la raison de tout ce bruit. Il me répondit qu'il n'en savait rien, étant lui-même en retard, et il me pria de le suivre. En voyant rentrer un étranger à la réunion, le silence se fit. Je m'excusai en expliquant ce qui s'était passé, et je me tournai vers la sortie. Un concert de voix m'arrêta. « Restez, ne partez pas, asseyez-vous !» Quelqu'un me prit par le bras, un autre avança une chaise, et je me retrouvai assis à la table du secrétaire comptable de la collectivité. Celui-ci me donna les raisons de la discussion et me demanda de trancher le différend. On n'était pas d'accord sur le nombre de sacs de blé rentrés au dépôt pendant la journée. Il y avait une différence, il manquait 2 sacs. Son opération était juste, il en était sûr. On retrouva l'erreur, un chiffre mal écrit. On avait pris un 8 pour un 6. Il faut reconnaître que 95% des ouvriers et paysans espagnols étaient analphabètes. Quelques-uns savaient écrire leur nom, mais c'était tout. Par contre, presque tous savaient compter, sans besoin de crayon ni de papier. Pour les 4 opérations élémentaires, ils avaient une machine à calculer dans le cerveau. On organisa les écoles, pour ceux qui voulaient apprendre à lire et à écrire. Les cours avaient lieu le soir après le travail. Vous pouvez croire que c'était un spectacle étrange. Et pourquoi ne pas le dire, émouvant. Ces hommes étaient penchés sur leurs livres, attentifs à épeler l'alphabet, ou essayant de bien tenir entre leurs doigts calleux le frêle bâtonnet de la plume, que le poids de leurs mains, habitués à manipuler les lourds outils des champs, écrasait sur le papier. Certains paraissaient très vieux. Le travail de la terre avait durci les mains, voûté les épaules. La misère avait creusé leurs joues, ridé leur front. Ils n'avaient peut-être plus que quelques années à vivre, et pourtant ils venaient tous les soirs, après une journée de labeur, s'asseoir au banc de la classe. Parfois, au hasard d'une réunion, on improvisait une conférence. Parmi les miliciens espagnols se trouvaient quelques instituteurs, et des étudiants, qui, lorsque l'occasion se présentait, se transformaient en orateurs pour exposer leurs idées ou leur façon de concevoir la vie. Il y avait à la 2e centurie un jeune maître d'école qui avait exercé à l'école moderne de Francisco Ferrer à Barcelone. Il avait la parole facile et aimait parler de tous les sujets possibles pourvu qu'il puisse intéresser ses auditeurs. Un soir, on lui demanda de parler du mariage et de l'amour. La salle était comble. Les jeunes y venaient volontiers, car on riait, on blaguait, tout en discutant de choses sérieuses. Je me souviens à peu près de son discours. D'autant mieux que ce sont les idées que j'avais à l'époque sur la question, et qu'elles n'ont pas changé au fil des ans passés. L'orateur débuta ainsi.
Camarades, je demande pardon d'avance à ceux qui seront choqués par ce que je veux vous dire. Le mariage, institution vieille de plusieurs millions, j'allais dire d'années, mais du moins ce qui est plus près de la vérité, de quelques dizaines de siècles, depuis l'avènement du christianisme. Le mariage, donc, dans sa forme actuelle, c'est le tombeau de l'amour. La femme doit obéir au mari, se soumettre à sa volonté, car il est le maître. En échange, il est chargé de la nourrir et de la défendre, comme il doit défendre son bétail, car elle est sa chose, elle lui appartient. Je parle pour toutes les femmes, aussi bien pour celles qui sont nées dans un berceau doré que pour celles qui reposent depuis leur premier vagissement sur ces grabats. Dans cette société que nous voulons détruire, le prolétaire se marie souvent pour avoir une bonne le jour, une femelle la nuit, et pour perpétuer la race des esclaves et des miséreux qui traînent leurs savates sur tous les chemins du monde. Et ceci pour le plus grand bien des classes dominantes qui nous écrasent. Les femmes du peuple, usées par le travail, affaiblies par une nourriture insuffisante, déformées par des grossesses trop rapprochées, sont vieilles à 30 ans. Vous ne me croyez pas? Regardez autour de vous. Oui, je sais ce que vous vous dites. Une fille doit se marier. Une femme sans mari est une plante sans feuilles, un arbre sans fruits. Et pour échapper à la tutelle du père ou des frères, en espérant conquérir un peu de liberté, vous êtes prête à vous donner en échange d'un nom. Non, je suis contre toutes les prostitutions, même celles qui sont légalisées par le maire et bénies par le curé. C'est à cause de ces préjugés qui nous viennent du fond des âges et des époques lointaines que la femelle de l'homme, alourdie par la grossesse, affaiblie par l'accouchement qui l'empêchait de se procurer de quoi survivre, a eu besoin de quelqu'un qui puisse chasser, pêcher, grimper aux arbres pour la nourrir, la défendre, elle et son rejeton, contre l'attaque des fauves, si cela était nécessaire. Elle fut alors obligée d'admettre la rude loi de la nature qui ordonne de tout accepter pour que l'espèce survive. Et l'espèce a survécu. Au fil des générations, l'humanité s'est multipliée, a envahi le monde, a inventé la machine, dompté la foudre, domestiqué le feu. Le mâle a imposé la loi du plus fort et a fait de la femme un bibelot, une servante ou une bête de somme. Elle fut conditionnée par des siècles de soumission d'une telle façon qu'aujourd'hui encore il existe des pays où l'homme achète sa femme, où des parents troquent leur fille contre marchandises, bétail ou toute autre denrée. Dans notre société soi-disant civilisée, on arrange souvent, pour ne pas dire toujours, des unions où seuls comptent les propriétés, les capitaux, la richesse des parents et nullement les penchants affectifs des fiancés. Si un homme a plusieurs maîtresses, on dit de lui avec admiration, c'est un rude lapin. Si une femme a un amant, on dit d'elle, c'est une putain. Je réclame pour la femme, pour toutes les femmes, les mêmes droits que ceux que nous avons, nous les hommes. Je réclame, pour la moitié du genre humain, le droit à la liberté de l'amour, à la libre maternité.
Le succès fut assez mitigé, surtout parmi les plus âgés du sexe masculin. En Espagne, les filles étaient loin d'avoir la liberté de leurs sœurs de France ou d'autres pays d'Europe. Pour ne pas choquer les parents, elles se taisaient. Les garçons et les hommes mûrs discutaient ferme, les uns pour, les autres contre. Quelques femmes se mêlaient au débat. On posait des questions à l'orateur. On lui demanda quelle serait sa réaction si, dans le cas où il était marié, il apprenait que sa femme avait un amant.
Écoute, amigo, si ma femme est aussi une libertaire, donc a le même respect que moi pour sa liberté et pour la mienne, et qu'elle me confiait son désir de coucher avec un autre homme, en me donnant les raisons sentimentales ou physiques, on déciderait ensemble de la conduite à tenir. Si mon épouse ne partage pas mes idées, elle ne me dira rien. Et si je la prends, il faudra que je me pose des questions. Primo, est-ce que je ne satisfais pas ses besoins érotiques? Si c'est ça, il est juste qu'elle aille chercher ailleurs ce que je ne peux lui donner. Un exemple. Je t'invite à dîner chez moi. Lorsque tu t'en vas, t'as encore faim. Faut-il que je me fâche parce qu'en sortant de chez moi, tu vas t'acheter un sandwich? Non, n'est-ce pas? Les nécessités sexuelles sont comparables aux besoins nutritifs. Elles varient selon les individus. Il y en a qui ont un gros appétit et d'autres qui, avec très peu de choses, sont rassasiés. Donc j'ai juste le droit de me taire. Tout au plus, je pourrais lui reprocher de ne pas m'avoir prévenu. Secondo, elle cherche un amant pour assouvir ses envies matérielles nécessaires ou superflues. C'est encore de ma faute, car je n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent pour qu'elle puisse se procurer ce qu'elle désire. Dans les deux cas, quelle doit être ma conduite? Dans le premier cas, je n'y peux rien. La nature ne m'a pas fait assez fort pour la combler. Je serais un fieffé salaud si, profitant du pouvoir que me donnent la loi écrite et les mœurs, si je voulais l'empêcher de s'épanouir dans le plaisir de la chair pour une simple question d'amour propre. Dans le deuxième cas, que pourrais-je faire? Me taire et accepter? Non. Car je profiterai, à mon corps défendant, certes, de sa beauté, de son élégance, de son luxe. Mais je me sentirai moralement l'égal des macros, des souteneurs, qui vivent du travail des prostituées, comme les capitalistes de celui des ouvriers. Car la prostitution est le plus vieux métier du monde. Alors, je la quitterai, pour grande que fût l'affection, l'amour et l'amitié que j'aurais pour elle.
Et tu ne connais pas la jalousie?
Si, je suis jaloux de mes maîtresses. Avec elles, aucun contrat ne me lie. Seule la recherche du plaisir érotique nous unit. Il est naturel que, lorsque ce plaisir diminue ou disparaît, on se quitte pour chercher ailleurs, avec d'autres partenaires, cette jouissance qui est, par loi naturelle, nécessaire à l'équilibre psychique de tout être humain. Je suis jaloux de ma maîtresse, car j'ai horreur du mensonge et de l'hypocrisie. J'ai horreur du mensonge gratuit, inutile, que l'on fait seulement pour le plaisir de cacher à notre entourage ce qu'on a fait, comme si on croyait ne pas avoir le droit de le faire, comme si nous n'étions pas libres et responsables de nos actes.
Dès le commencement de sa réponse, le silence était fait. Une jeune femme s'était approchée de lui et l'écoutait, sans le quitter des yeux. Dolores, une jeune femme d'environ 25 ans, couturière de son état, lui demanda
« Pedrito, que penserais-tu d'une femme qui te dirait ici même « je t'aime »?»«
Je penserais que c'est une femme intelligente et libre. Je penserais qu'elle est de beaucoup en avance sur son temps. Et pour cela, j'aurais de l'admiration et du respect pour elle, même si, au lieu de s'adresser à moi, elle avait parlé à un autre. C'est ça que tu voulais savoir?
Oui. Mais aussi, quelles seraient les motivations qui l'auraient poussé, elle, à faire cette déclaration?
Celles-ci sont multiples. Toi, tu pourrais les énumérer aussi bien que moi. Généralement, ce sont les mêmes pour l'homme et pour la femme. Le désir, la curiosité de savoir comment réagit un individu dans une situation particulière. L'envie de connaître la puissance virile de l'être choisi. Et tout ça peut se confondre, en dernier ressort, avec l'amour qui nous pousse tous à vouloir croire que nous cherchons le bonheur de la personne aimée, alors qu'en réalité, nous ne recherchons que l'épanouissement de notre personnalité subconsciente. Et nos conceptions, étant presque toujours différentes, se choquent, s'opposent, s'affrontent. Et c'est l'enfer conjugal, avec ses sanglots, ses plaintes, ses grincements de dents. D'où la nécessité de se séparer, d'aller franchement chercher ailleurs la réalisation de nos aspirations, la matérialisation des chimères qui nous hantent.
Alors, tu ne crois pas à un amour qui dure toute une vie?
Oui. S'il est basé sur la franchise, la compréhension, la tolérance de toutes ces choses qui peuvent diviser un couple. Différence de goût, matériel ou esthétique, d'aspiration intellectuelle ou morale. Il est très rare que deux personnes ayant les mêmes goûts, les mêmes aspirations, se rencontrent pour former ce qu'on appelle famille.
La conversation ne se termina que fort tard. Tous ceux qui devaient reprendre le travail le lendemain étaient partis se coucher depuis longtemps déjà.
Voyons de plus près comment la question du rapport entre hommes et femmes est abordée dans la révolution en cours. Dans le récit, Jiménez évoque un instituteur qui s'enhardit à réclamer pour les femmes les mêmes droits que pour les hommes, signe que cet état d'esprit n'était pas très répandu dans l'Espagne des années 30, même si le théoricien anarchiste Anselmo Lorenzo avait écrit en 1872 que « la femme est un être libre et intelligent » et en tant que telle, elle est responsable de ses actes. Dans ses mémoires, Abel Paz évoque un hameau de la province de Lérida où les femmes se retrouvent à tous les postes de l'activité collectiviste. Et à Barcelone, il a pour amis de jeunes femmes anarchistes qui s'investissent complètement dans la lutte et ne sont pas les dernières à critiquer la politique de la CNT et de la FAI. Mais d'autres militantes estiment que l'émancipation de la femme ne résultera pas mécaniquement de la révolution sociale et qu'il faut engager une lutte spécifique. Le groupe Mujeres Libres est né en décembre 1934 et la revue du même nom est fondée en avril 1936 à Madrid. Jusqu'en 1939, 20 000 femmes animeront ce mouvement et publieront 13 numéros de la revue. Cette organisation féministe veut amener les ouvrières au mouvement libertaire espagnol et revendique la libération des femmes vis-à-vis du capital, du patriarcat et de l'ignorance, dans le cadre plus large de l'émancipation de la classe ouvrière. Les intellectuels et les ouvrières qui l'animent s'investissent totalement dans la révolution, tant au front que dans les usines, les collectifs d'éducation et de formation, les réseaux de solidarité. Elles deviennent rapidement une force propositionnelle et analysent dans leurs rapports et leurs congrès les enjeux de la guerre, du pouvoir, des oppositions politiques et syndicales. Mujeres Libres constitue un mouvement convergent et autonome, mettant les militants anarchistes face à leur propre incohérence. Ainsi, ils se plaignent que les femmes ne soient pas assez combatives, mais leurs propres épouses n'assistent jamais aux réunions politiques et syndicales. On peut imaginer qu'elles auraient aussi souligné, dans le discours de l'instituteur, la contradiction suivante. Après avoir critiqué le traditionnel rapport de protection et de dépendance entre mari et femme, il trouve normal que dans le cadre de relations émancipées entre les sexes, ce soit encore l'homme qui ramène l'argent au foyer. Or, dans l'argumentation de Mujeres Libres, il est central que la femme soit considérée comme un individu à part entière, ce qui implique qu'elle puisse subvenir à ses besoins si elle vit seule, ou participer aux revenus du ménage, rompant ainsi autant que faire se peut avec la division du travail et des rôles entre les sexes. L'accès au travail est certes l'un des biais par lequel la femme sort de la sphère privée, contribue à son émancipation sociale et se dégage de son sentiment d'infériorité, mais est-ce suffisant ? Question subsidiaire et éternelle. Peut-on réduire l'activité humaine au travail ?
venu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle, on peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la plaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrament sous les fourches du codine. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à
La suite des différents épisodes qu'on vous avait déjà passés, et on se disait justement là pendant la pause musicale que c'était un discours féministe finalement qui n'a rien à envier à l'époque actuelle, parce qu'il est beaucoup plus poussé, les idées qui sont développées finalement sont très plus que modernes, enfin le moderne n'est pas le bon mot, mais
Il y a un contenu social très fort.
Voilà, il y a un contenu social, et puis
pas la parité, quoi.
Voilà, on se disait même que le discours actuel est en deçà de celui qu'on vient d'entendre. Et puis, alors, juste pour l'anecdote, moi, je voudrais dire que les filles mettent des pantalons. C'est une bonne nouvelle. La loi qui les oblige à demander à la préfecture la permission d'en mettre n'a jamais été abolie. Voilà. C'est juste... Donc on est tout hors la loi.
Ok. Bon. On va peut-être passer à autre chose, avant que vous ayez quelque chose à dire. D'accord, personne n'a rien remarqué sur la pause musicale.
Ah, si, évidemment, oui.
Bon, mais c'est pas... si on a des échos, on y reviendra. Voilà, je vais vous parler d'autre chose, moi. Je vais vous parler du plat pays, les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce pays. Est-ce qu'il vous apparaît sympathique ou pas, ce pays, les Pays-Bas?
Ah, c'est un peu bien rangé, hein. C'est un peu propre. Mais c'est tout ce que j'en dirais, à la limite. Je sens le piège.
Ouais, tu sens le piège. Parce que j'ai découvert des choses de la part d'un Néerlandais qui s'exprimait et qui parlait un petit peu de ce qui se passe au niveau du quotidien là-bas. Et on apprend des choses. Depuis 1948, il y a des policiers volontaires. Depuis 1973, ils se sont organisés en Organisation Nationale de la Police Volontaire, la LOPV. Dans les années 80, cette police volontaire comptait jusqu'à 6000 membres. Aujourd'hui, ils sont 2300, répartis dans les différents corps de police pour un peu plus de 16 millions d'habitants, faut le dire, hein. Pour le ministre de la Sécurité et de la Justice, parce que là-bas, c'est un ministre de la Sécurité et de la Justice, police et justice donc, il vient d'annoncer que l'objectif était d'atteindre le nombre de 5000 avant 2015. Ces volontaires ont la plupart du temps à une autre profession principale, les plus diverses, et consacrent quelques heures par semaine à ce second job où ils remplissent des missions de petites enquêtes, règlent le trafic, tapent des rapports, des petites mains pour leurs collègues professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'en 1993, les volontaires en question étaient armés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ces volontaires actuellement aux Pays-Bas se motivent, font pression pour obtenir un pistolet après une formation. Les syndicats de police n'en veulent pas, puisqu'ils veulent garder ces prérogatives, évidemment, pour garder leur salaire. En dehors de ces aspects sécuritaires de collaboration citoyenne au maintien de l'ordre démocratique, je parle de l'ordre démocratique parce que faut rappeler que les Pays-Bas, c'est pas une république, hein, c'est une monarchie. Ce recrutement de policiers volontaires répond à des soucis budgétaires. Évidemment, ça fait des économies. Aux Pays-Bas, il y a autre chose. Eh oui, il existe aussi un réseau de volontaires pour ouvrir l'œil. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce réseau porte le nom de BurgerNet. C'est pas le cheeseburger, c'est le BurgerNet. C'est une idée d'un ex-policier de Rotterdam en 2008. Un an plus tard... En 2009, ce système était expérimenté dans 9 communes. Il est maintenant implanté dans tout le pays et il compterait 400 000 membres. Le fonctionnement de ce réseau est très simple. La personne intéressée s'enregistre au système via un site internet. Si quelque chose se passe dans son quartier, la personne reçoit un SMS ou un appel vocal sur son téléphone mobile. Il peut s'agir d'un cambriolage, d'une personne disparue, d'un délit de fuite, etc. Son rôle est d'ouvrir l'œil et les oreilles et de communiquer par téléphone les renseignements gagnés ici ou là à un policier qui saura l'écouter. D'après le ministre de la Sécurité et de la Justice, ce système a dépassé toutes les espérances car le taux de résolution d'affaires aurait atteint 9% pour l'ensemble du pays, avec tout de même de grosses disparités, puisqu'il y a 22% dans la province de Groningue, et pas Groland, au nord, où il y a 24 500 citoyens qui collaborent pour 500 000 habitants. 24 500 citoyens, ça représente quand même 5% de la population, en comptant tout le monde, y compris les enfants. BurgerNet tente à présent à recruter des jeunes de 16 à 24 ans. La raison est évidente, les jeunes sont dehors, hein. Les jeunes sont souvent dans la rue. Ils peuvent être des collaborateurs particulièrement efficaces pour la police. BurgerNet organisera bientôt des activités dans les écoles et des associations de jeunes. Il y aura même des iPads à gagner. Les participants à ce réseau ne reçoivent aucune formation, car pour être délateur, la volonté suffit. Voilà, donc moi j'étais étonné en tombant là-dessus, hein. Ça émanait d'un Néerlandais qui nous décrivait un peu la situation de son pays. Je me suis dit, bon, je savais déjà que dans certains pays du Nord, entre guillemets du Nord, qui avaient pour religion principale historique le protestantisme, Il y avait tout de même de forts réseaux de délation, hein, voir ce qui se passe au Canada, en Suède, etc. En Angleterre, évidemment, en Angleterre, c'est là que ça a été le plus développé. Je ne connaissais pas du tout pour les Pays-Bas, mais c'est assez éloquent.
Ben, ça existe aussi en France, il me semble.
Oui, ça existe en France, mais pas à une échelle comme ça, quand même. Hein. Il faut rappeler que les Pays-Bas, c'est quand même 4 fois plus petit que la France. Mmh. Hein. C'est quand même 4 fois plus petit. Donc, au niveau des populations. Hein. Donc, c'est comme si, chez nous, on avait 1 600 000 personnes qui écoutaient, voyaient, et puis communiquaient avec la police par SMS ou par Internet.
Ben, il me semble qu'il y a pas, il y a une convention qui vient d'être signée dans un petit village.
Ouais, tu peux en parler parce que je n'ai pas le truc sur la main.
Oui, dans les mains.
Maison en Champagne, je crois.
Oui, c'est un village qui se trouve sur la, au bordure de National 4. Et donc il y a une convention qui vient d'être signée, entre la mairie et la gendarmerie. Alors pourquoi il y a une convention? Bon, c'est faut dire que c'est un village où il se passe pas plus de choses qu'ailleurs, mais où les gens avaient l'impression, parce que c'est un fort trafic routier, je crois qu'il y a un relais routier qui se trouve dans le coin, et donc apparemment il y avait une espèce de milice qui s'était mis en place pour surveiller le village, tout cambriolage, etc., etc. Et donc ils ont voulu remettre de l'ordre là-dedans. Donc il y a 25 volontaires qui vont participer à surveiller ce qui se passe dans le village et tout. Alors ce qui était très marrant, c'est donc ça s'est fait en présence de la sous-préfète, et la sous-préfète a dit que bon, en fait on avait fait que de transporter d'un point à un autre les petits problèmes qui pouvaient exister, parce qu'apparemment il n'y avait plus de trop problèmes de cambriolage, d'incivilité, etc. dans ce village, mais que ça s'était déplacé au village, à l'autre village. Donc bientôt peut-être une autre convention pour avec le village suivant.
Ouais, bon, c'est toujours la fuite en avant. On va peut-être faire une pause musicale, à moins qu'on aborde, ou on aborde peut-être un autre problème après.
Bon, comme tu veux, on va pas. Alors, oui, si j'en voyais.
Let's go.
Allez, je peux toujours poursuivre hein, au niveau Big Brother. Au niveau de la vidéosurveillance, par exemple, eh bien, vous savez que la vidéosurveillance va devenir intelligente. Et oui. C'est ainsi que ça nous vient des États-Unis, évidemment. Ça va envahir le marché des caméras. Jusqu'à maintenant, eh bien, les municipalités s'endettent actuellement pour des caméras, avec en plus, ils sont obligés de mettre des policiers municipaux devant ces caméras pour essayer de capter un peu ce qui se passe dans la rue, etc. Et bon, faut dire ce qu'il y a. Quand on regarde bien et quand ils veulent bien regarder, parce que nous, c'est pas le problème, mais c'est surtout eux, c'est-à-dire les financeurs, les municipalités, les politiques, etc., ils s'aperçoivent bien que c'est pas vraiment rentable cette histoire. C'est moins qu'on puisse dire.
Donc il faut savoir que quand une municipalité décide d'installer des caméras de vidéosurveillance dans sa commune, elles sont financées entre 60 et 70% par l'État.
Au niveau de l'installation.
Oui, c'est ça.
Et pas du main. Parce qu'au début, c'est assez séduisant. Et c'est ainsi que le marché, c'est-à-dire les capitalistes qui vendent ce type d'engin, qu'ils soient français ou américains, se frottent les mains. Effectivement, c'est financé par l'État à 70-80%. Le problème, c'est que c'est la première année, c'est l'installation. Après, ben, il faut faire fonctionner le bordel. Ensuite, ben, il faut la caméra ne fonctionne pas toute seule. Il faut donc des tas de trucs, bandes, etc. Il faut mettre des gens devant les écrans.
Oui, il faut toute une logistique pour suivre
le truc. Et ça coûte énormément cher. Et c'est pas du tout rentable. Alors maintenant, ils ont trouvé, paraît-il, une caméra intelligente. Alors les caméras intelligentes, eh bien, écoutez bien, elles réagissent au mouvement. C'est-à-dire que si effectivement, on est dans un endroit où il se passe rien, que la caméra est là, la caméra va se déclencher vraiment et va alerter ceux qui ont pour fonction de contrôler ce qui se passe à l'écran quand il y aura mouvement. Alors c'est très bien ça, mais le problème c'est que vous mettez une caméra à la sortie du métro, vous mettez une caméra dans un aéroport où les gens courent partout, vous mettez une caméra dans une gare, est évident qu'il y a des problèmes. Alors c'est ainsi que, par exemple, aux États-Unis, finalement, ils y reviennent à cette caméra dite intelligente qui s'oriente suivant les mouvements et qui a pour but aussi de choper la personne de face, etc. N'empêche que bon, ils se sont aperçus qu'il y avait un pourcentage important de fausses alertes. Et ces fausses alertes, par exemple, pourraient être, on peut dire, estimées à 1000 fausses alertes, par exemple, à Orly, par exemple, ou dans un autre aéroport. Donc, vous voyez, c'est pas évident du tout. Mais les vendeurs, ils ont une autre propagande maintenant pour les municipalités. Cette caméra intelligente est capable de lire les plaques d'immatriculation des voitures en double fil. Génial! Est capable, bien évidemment, de lire les plaques d'immatriculation de ceux qui grilleraient un feu rouge ou un stop. Donc effectivement, les municipalités vont peut-être être motivées parce que ça va pouvoir, rentrer dans leurs finances des contraventions qu'ils n'avaient pas prévues parce que la police n'était pas là. Alors voilà où on en est au niveau de la vidéosurveillance. Ce qui m'a fait vraiment sourire, c'est qu'on appelle ça de la vidéosurveillance intelligente. C'est bon, vous en voulez d'autres, des trucs peu tristes? Oh, un peu tristes, non, pas forcément. Dans l'éducation nationale, maintenant. Alors, dans l'éducation nationale, ils ont, depuis un mois, en Poitou-Charentes, les instits et les profs des écoles sont soumis à titre expérimental à l'utilisation d'une application Internet nommée AGAR, Aide à la gestion automatisée de retenue sur traitement. À l'occasion de chaque grève, chaque enseignant doit saisir via l'intranet de l'inspection académique de son département sa position administrative correspondant au jour de grève. Présent, absent, autorisé ou gréviste. C'est incroyable, hein? C'est-à-dire que maintenant, avant, dans beaucoup de professions maintenant, tu es amené à te déclarer avant. Si tu es gréviste ou pas, surtout si tu es gréviste, en fait.
C'est le cas des instits et des profs d'école.
Des instits. Mais là, ça va plus loin. C'est-à-dire que chaque personne, qu'elle soit gréviste ou pas, qu'elle soit n'importe quoi, s'il y a une grève dans son secteur, eh bien, elle devra le faire sur Internet. Elle devra déclarer sa situation, quelle que soit sa situation, sur Internet, sur intranet exactement, au niveau de l'inspection académique. pour effectivement que le retrait sur le traitement soit automatique. Mais évidemment, il n'y aura pas que ça, puisque ça permettra un fichage terrible de la part de l'administration concernant les éventuels grévistes. Alors voilà, c'est une expérimentation qui a débuté en janvier, qui risque peut-être de s'élargir. Il y a quand même eu un syndicat de Charente-Maritime qui a donné comme consigne à toute la profession de se déclarer non gréviste, même s'ils étaient grévistes. C'est pas mal, je trouve, ça permet d'avoir un certain contre-pied, même si ce contre-pied-là, quelque part, il entérine l'outil. Et il fait en sorte que cette expérimentation puisse se faire. Je crois qu'il faudrait quand même que ça soit clair, qu'on puisse faire vraiment un boycott de cet outil.
Alors, dans les collèges et les lycées, le problème ne s'oppose pas, puisque c'est l'administration elle-même qui rend... Il existe déjà ce type de fichier dans les collèges et dans les lycées.
Sauf que c'est la hiérarchie qui le fait.
Voilà.
La hiérarchie, pas forcément d'ailleurs. Puisque par exemple, dans certains lycées, c'est les pions, enfin ce qu'on appelait les pions maintenant, c'est... Les aides à la vie scolaire, c'est ça.
Les aides éducateurs.
Les aides éducateurs qui font ce travail-là, hein, qui font ce travail-là pour repérer les profs qui font grève et le signaler à l'administration. Là, ça va quand même plus loin parce que c'est la personne qui.
C'est le problème, c'est que il existe bien des directeurs d'école, mais ils n'ont pas les pouvoirs sur les instituts et les profs d'école. Ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que les chefs d'établissement de collège ou de lycée ont sur les enseignants.
D'accord.
Voilà.
Maintenant, on peut peut-être parler aussi d'autres choses, pas très réjouissant non plus. Quoique bon, c'est pas réjouissant, mais peut-être que en ayant des informations, peut-être que les gens réagiront. Il y a eu, vous le savez, un passeport biométrique. Il est en marche actuellement. Il y a dans les tuyaux une carte d'identité biométrique. Et puis il y a dans les tuyaux, ça va sortir en 2013, un nouveau permis de conduire biométrique. Alors ce nouveau permis de conduire, c'est un truc qui nous vient au départ d'une décision européenne où il faut soi-disant harmoniser tous les permis de conduire européens. C'est-à-dire que votre triplet que vous avez de couleur rose dans votre portefeuille, si vous avez le permis de conduire, c'est fini. Normalement, en janvier 2013, vous aurez donc un document qui sera du type carte d'identité, carte bancaire, en fait, carte bancaire. Alors le problème, c'est que l'Europe n'a pas dit qu'il fallait mettre une puce dedans automatiquement. Elle autorise le fait que ça se fasse, mais c'est pas obligatoire. La France, bien sûr, travaille pour que dans ce permis, il y ait effectivement une puce. Alors une puce, pourquoi faire ? Bien sûr, il y aura l'identité, il y aura certainement les empreintes digitales, mais ça ira beaucoup plus loin, puisqu'il y aura tous vos délits routiers qui seront inscrits et qui pourront être visionnés par la police quand elle vous arrête. Bon, c'est dans les tuyaux, c'est en janvier 2013, c'est pas sûr que ça se fasse, parce que bon, il y a quand même des gens qui réagissent. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, il y a une association qui s'est créée là-dessus, etc. N'empêche que bon. Voilà ce qui nous pend au nez dans peu de temps. Alors pour ceux qui penseraient que la CNIL pourrait faire quelque chose, on note que la CNIL n'a pas encore été informée de cette histoire. Et quand elle le sera, il sera trop tard de toute façon, puisque ça sera en janvier 2013. Et qu'en plus, de toute façon, la CNIL n'a aucun pouvoir concernant des décisions, de coercition concernant l'État. On passe à autre chose ou...
Oui, on peut changer un peu de registre. On va parler de santé. Vous savez que depuis quelques années, tout ce qui se passe au niveau de la santé dans une région se fait sous l'égide d'une agence régionale de la santé, ARS, et que ces agences régionales de santé, c'est eux qui ils décident de tout. Hein. Ils décident de ce qui peut s'ouvrir, ce que peut fermer dans l'hôpital. Ils s'occupent de ce qui des maisons de retraite qui peuvent s'ouvrir ou pas, d'installer des maisons médicales à tel ou tel endroit. Enfin, tout ce qui relève de la santé maintenant passe par le domaine de l'Agence régionale de santé. Donc c'est un organisme d'État qui est des hein, qui est découpé au niveau de chaque région. Alors, ces ARS devaient rendre avant la fin de l'année des plans régionaux de santé pour les années 2012-2016. Alors, ce plan pour la région Champagne-Ardenne, ce plan régional est sorti. C'est un document qui fait près de 400 pages. Faut se le bouffer. Et quand il y a un résumé, je suis allé voir sur le site de l'ARS pour voir un petit peu ce qu'ils en disaient sur ce plan. Dans le résumé, en fait, il n'y a pas ce qui est ce qui nous intéresse. Alors, ce plan est sorti au mois de novembre 2011. Et on pouvait émettre des avis, mais il fallait savoir sur ce plan régional de santé, et surtout le conseil régional avait à voter, à dire s'il était pour ou contre ce plan régional de santé. Ils avaient jusqu'au 16 février, donc toutes les remarques devaient être faites avant le 16 février. Le conseil régional vient de voter et a voté contre ce plan régional de santé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en lisant bien les 400 pages du rapport, c'est que si le département de l'Aube s'en tire pas trop mal, c'est pas le cas des autres départements, puisque sont menacés des plateaux chirurgicaux à Vitry-le-François dans la Marne, à Chaumont dans la Haute-Marne et à Rethel dans les Ardennes, ainsi que les maternités de Vitry-le-François et de Langres, toujours en Haute-Marne. Alors pourquoi ils seraient touchés, ils seraient fermés? D'après ce rapport, la région Champagne-Ardenne se retrouverait largement au-dessus de la moyenne au niveau des plateaux chirurgicaux et des hôpitaux encore existants. Alors, il y a un deuxième problème, c'est le fait que les hôpitaux, la plupart des hôpitaux soient en déficit. Donc, il y en a deux qui sont recensés comme étant bénéficiaires. C'est l'hôpital de Reims, mais depuis fin 2011, et ceci, faut dire comment ils sont arrivés à faire que l'hôpital donc ne soit plus déficitaire. Alors, après, il faudrait qu'on étudie qu'est-ce qu'on appelle déficitaire. Ils ont supprimé 250 emplois sur l'hôpital de Reims. Et le deuxième qui était encore bénéficiaire en 2011, c'est l'hôpital de Troyes, mais apparemment il y a des graves problèmes et il n'est pas sûr qu'ils soient encore bénéficiaires dans les autres années. Donc, ce qui explique aussi qu'on va fermer des plateaux chirurgicaux. Alors, le conseil régional s'est posé aussi le problème de la tarification. Puisque maintenant c'est ça, hein, quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez un problème de santé, que vous allez dans un hôpital public ou dans une clinique privée, il y a une tarification à l'activité. Alors eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on ne parle plus maintenant ni de service public ni de privé à but lucratif. On parle d'un service public de santé, comme ça mélange tout, et donc on s'aperçoit que dans certains endroits, on va privilégier les cliniques privées, pourquoi, entre autres, la région, enfin les conseillers régionaux ont voté contre, c'est eux, ils veulent que l'hôpital public reste le pilier de l'accès aux soins. Bon, c'est pas toujours le problème. Alors, donc, tout le monde a refusé, y compris le Front National, sauf l'UMP, le Nouveau Centre.
Ok.
Voilà.
On va peut-être parler maintenant, avant de se quitter, de lutte.
On a évoqué dans... Enfin, on n'a même pas qu'évoqué. On a fait des émissions sur la lutte anti-TGV, aussi bien en Italie qu'en Espagne. Eh bien, il y a un rassemblement à Bilbao après-demain, le 22 février, de solidarité avec ce qui se passe en Italie, vu que, comme vous le savez, on l'a déjà dit sous cette antenne, la police italienne a réalisé un vaste coup de filet contre le mouvement d'opposition au TGV du Val Susa, et ainsi que dans d'autres régions d'Italie. Il y a eu 24 arrestations, et actuellement, ce qui est bien tout de même, c'est que les luttes anti-TGV commencent à se coordonner et commencent à apporter une solidarité à ce qui peut se passer ailleurs. C'est ainsi que le mouvement au Pays Basque, eh bien, se organise une manifestation à Bilbao en solidarité avec les Italiens. Je crois que...
Oui, alors c'est intéressant, le rassemblement, il a lieu après, juste avant des matchs de basket, des rencontres de basket importantes à Bilbao, où il y a une équipe italienne qui est appelée dans un de ces matchs, quoi. Donc c'est une occasion pour le mouvement anti-TGV basque et de l'État espagnol de se mobiliser.
Ouais.
C'est vrai que c'est très intéressant qu'il y ait une réelle cohésion, une réelle solidarité active, quoi.
Alors je crois qu'on y reviendra, puisque en France il y a des tas de projets au niveau du TGV, et petit à petit les conseils régionaux et généraux commencent à avoir peur, parce qu'effectivement ça coûte énormément de fric. Ils se demandent, ils freinent les deux fers pour un certain nombre de constructions. C'est loin d'être des mouvements sociaux qui font recruter la machine. N'empêche que il y a aujourd'hui le problème posé. Il faudrait qu'il se pose aussi en Italie et puis en Espagne, mais tout de même le problème est posé de ces grands trucs inutiles et coûteux pour tout le monde.
Oui, effectivement, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y a pas mal de conseils généraux et régionaux qui abandonnent les financements des tronçons de lignes TGV qui passent sur leur territoire, et ça fait réagir, je crois, si je ne me trompe, c'est Malvi, le président de la région
du Sud-Ouest,
Sud-Ouest, qui râlait, qui s'offusquait parce que il y a des élus de conseils généraux qui refusaient de financer, et comment on pouvait pas interdire de laisser passer le progrès, quoi. Enfin, mais c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Ça peut donner, faut espérer que ça donne du ressort au mouvement, aux mobilisations locales.
Et il y a une mobilisation peut-être, on aura l'occasion de parler ici, c'est ce qui se passe à Nantes, hein. Il y a une manifestation le 24 mars à Nantes contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Oui.
Et je crois que ça serait bien qu'on en parle sous cette antenne avec des interviews de gens qui se battent là-bas.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans